Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Notre émission est donc consacrée aujourd'hui à la nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola qui touche la République démocratique du Congo depuis le début du mois. Depuis que le 8 mai, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé les premiers cas dans la zone de Bikoro. Retour d'Ebola en RDC, car c'est en effet la 9e fois que le pays est touché par la fièvre hémorragique. Depuis la première épidémie de 1976, Bikoro touchait en premier lieu avant que d'autres cas ne soient confirmés dans cette même province de l'Équateur, dans la grande ville de Mbandaka, grande ville de la région, capitale provinciale, plus d'un million d'habitants, ville traversée par le fleuve Congo. La souche du virus est identifiée, une souche dite Ebola Zaïre, et la vaccination a débuté il y a tout juste 8 jours. Le dernier bilan disponible remonte à dimanche, 54 cas signalés, 35 confirmés, 22 décès. Et comme à chaque épidémie, de très nombreuses questions se posent, des questions liées aux craintes très particulières liées à ce virus singulier pour savoir si la riposte engagée est pertinente en termes de risque de contagion, de la prise en charge, des croyances et des problématiques locales, ce qui distingue cette flambée des précédentes, alors que tout le monde garde en mémoire la terrible épidémie de 2014-2016 qui avait causé plus de 11 300 décès en Afrique de l'Ouest. Et toutes ces questions, nous allons tenter d'y répondre au cours de cette émission avec nos invités. Avec nous en studio, le professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant dans le centre des maladies infectieuses de l'hôpital Bégin à Saint-Mandé en région parisienne, où votre équipe avait pris en charge les cas importés lors de l'épidémie de 2014. Et vous êtes aussi président de la Société française de médecine des voyages. Nous serons en ligne avec le professeur Jean-René Mouyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Professeur Mouyembe de retour de Mbandaka et tout premier chercheur à avoir travaillé sur le site de la première épidémie en RDC en 1976. D'ailleurs, à ce moment-là, on disait le Zaïre. Nous allons aussi retrouver dans quelques minutes Louis Encinas, infirmier, coordinateur de la mission d'urgence à Médecins Sans Frontières, de retour lui aussi de Mbandaka et Bikoro en République démocratique du Congo. Et puis, bien sûr, vos questions, vos témoignages, vous pouvez nous joindre. Le numéro de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Et avant de réexpliquer la nature très particulière de ce virus de souche dite Ebola Zaïre avec vous, professeur Rapp, on va tout de suite donner la parole aux acteurs de terrain de retour justement de la province de l'Équateur. D'abord, à vous, professeur Jean-René Mouyembe. Bonjour, professeur.
Bonjour. Bon, je m'appelle Jean-Jacques, hein, pas Jean-René.
Eh ben, une erreur que je vais corriger immédiatement. Jean-Jacques, vous étiez jeudi dernier à Mbandaka. Comment est-ce que vous décririez l'état d'esprit des habitants de la ville?
Bon, exactement, je suis revenu hier donc de Mbandaka. La population de Mbandaka semble même ignorer qu'il existe une épidémie à virus Ebola dans la ville. Cela veut dire que en fait ils ne sont pas vraiment très sensibilisés à l'existence, n'est-ce pas, de cette épidémie. Mais le travail est sur le terrain et je pense dans les jours à venir il y aura beaucoup plus de conscience de l'existence donc de cette épidémie dans cette grande ville.
Professeur Mouyembe, à quoi ressemblent les unités de soins qui ont été installées sur place, justement, depuis ce premier cas confirmé à Mbandaka?
Bon, la première unité de soins, c'était au sein même, n'est-ce pas, de l'hôpital général. Mais depuis hier, on a ouvert un centre de traitement qui a été construit par MSF. Et ça, c'est vraiment un centre qui répond aux normes et même avec un concept plus récent où dans ce centre nous aurons donc l'équipe de prise en charge donc des malades et en même temps les autres équipes par exemple, ceux qui s'occupent de problèmes socio-culturels seront également installés, n'est-ce pas, dans ces centres, y compris les laboratoires, n'est-ce pas, de diagnostic et de suivi de traitement.
Alors, professeur Mouyembe, à Mbandaka, dans la région également, dans la zone de Bikoro, où il y avait eu le premier cas confirmé, la vaccination a commencé il y a déjà plus d'une semaine. Comment est-ce que cela se passe sur place?
Tout justement, j'ai été nommé par le ministre comme responsable scientifique et par l'OMS comme responsable scientifique de cette vaccination. Et la vaccination a commencé à Mbandaka. Je suis parti à deux reprises pour voir ce qui se passe. Et tout se passe bien. Les équipes suivent le protocole qui a été mis à leur disposition. Et les équipes comprennent les experts qui sont venus de la Guinée parce qu'ils ont l'expérience de la vaccination en ceinture. Et les Congolais. Donc, en fait, c'est comme si nous faisions une coopération sud-sud, parce que en 2014, c'est nous qui avions envoyé les experts congolais pour lutter contre l'épidémie en Guinée, et cette fois-ci, ce sont les Guinéens qui sont venus pour nous former dans la vaccination en ceinture.
Alors, juste,
tout se passe bien, et il y a un engouement pour la population pour venir se faire vacciner.
Justement, ce terme, vous employez le terme de vaccination en ceinture, professeur Mouyembe, ça mérite une explication. Qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Bon, cela veut dire qu'en fait, ce n'est pas une vaccination de masse. C'est une vaccination qui part du fait qu'un individu qui est infecté par Ebola va infecter ses contacts. Les premiers contacts, donc ceux qui habitent avec lui et les amis, etc. Et puis après, il y aura ces contacts-là auront aussi leurs contacts. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vacciner d'abord le contact à haut risque, ceux qui vivent vraiment en contact étroit avec les patients, et puis infecter alors la deuxième ligne, le deuxième cercle. Ce sont les amis et tout ça de ces contacts-là. Donc, ce principe a été utilisé pour la vaccination contre la variole et envers les années 70, vers les années 70, pour éradication de la variole. Donc, c'est une technique qui a fait ses preuves. Et nous pensons que cette vaccination en ceinture va donc aider à limiter l'expansion de la maladie.
Professeur Mouyembe, je vais vous soumettre une question d'une auditrice de Priorité Santé, une citoyenne de RDC, elle vit à Matadi, elle s'appelle Judith, et elle dit « J'ai entendu parler d'un vaccin expérimental, est-ce que cela veut dire qu'on fait des essais ?» Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Bon, c'est-à-dire en fait, oui, c'est un vaccin qui n'est pas homologué, entendons-nous bien. Ce vaccin n'est pas encore homologué, mais il a été déjà utilisé en Guinée, à Sierra Leone et je crois au Libéria aussi. Donc ce vaccin a été déjà utilisé chez les humains et ça semblait donner donc des effets, donc une protection. Ce n'est pas que il est expérimental au vrai sens du mot.
Ça ne veut pas dire que les personnes sont prises pour des cobayes. Ça veut dire qu'il n'a pas encore été validé à tous les stades de l'expérimentation scientifique normale.
Oui, mais les individus ne sont pas pris comme des cobayes, comme je vous dis, parce que on l'a déjà utilisé en Guinée. C'est la première fois qu'on avait utilisé en Guinée. Et maintenant, nous l'utilisons parce que l'OMS a donc a une certitude pour dire que c'est un vaccin qui n'est pas nocif, et devant la mortalité élevée causée par cette maladie, c'est le seul moyen que nous avons pour protéger ceux qui ne sont pas encore en contact avec le virus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des raisons valables pour qu'on puisse utiliser ce vaccin pour sauver de vie humaine.
Cette première raison valable, c'est bien sûr l'urgence, hein, on l'a compris, professeur Jean-Jacques Mouyembe. Vous restez en ligne, on va vous retrouver dans quelques minutes pour parler de cette vaccination notamment. On va y revenir, de la situation aussi avec le recul par rapport aux précédentes épidémies. On donne la parole à présent à un autre acteur de terrain, c'est Luis Encinas de Médecins Sans Frontières. Luis Encinas, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes aujourd'hui entre deux missions, hein, puisque vous serez jeudi de retour dans la province congolaise de l'Équateur, Luis Encinas. Qu'est-ce que vous avez vu lorsque vous étiez sur place dans la zone de Bikoro en particulier?
Alors oui, donc moi j'y étais la semaine dernière dans le cadre de cette mise en place d'essais cliniques du candidat vaccin, et j'ai vu que voilà, les équipes de Médecins Sans Frontières étaient déjà arrivées il y avait une dizaine de jours, donc juste au moment où la déclaration de l'épidémie d'Ebola avait été annoncée par les autorités congolaises, et donc déjà très occupé pour tout ce qui était les piliers de base du combat de la maladie et de sa propagation, donc focalisé sur la prise en charge des patients confirmés au centre d'Ebola de l'hôpital de Bikoro. Ce que j'ai vu notamment sur place, c'était aussi une image pas complète de la réalité, donc une difficulté vu les grands défis logistiques de mobilisation, les grandes difficultés d'accès aussi simplement, le manque de clarté de comment dans une première étape en train d'évolutionner cette maladie et d'avoir des nouvelles chaînes encore actives qui soient présentes. Donc le manque de clarté, qui est tout à fait quelque chose de normal dans les premiers jours, était aussi une situation qui, moi, m'a alerté lorsque je suis arrivé à Bikoro. Oui.
Alors vous avez parlé de cette dimension de l'accès, Luis Encinas, parce que Bikoro, c'est une zone très isolée, zone forestière, mais après quelques jours, on a appris donc que l'épidémie avait touché Mbandaka, grande ville sur le fleuve, donc là, pas du tout enclavée. Justement, cette dimension territoriale, cette dimension géographique, elle doit absolument être prise en compte lorsqu'on fait face à ce type d'épidémie.
Alors c'est une évolution, on parle d'évolution d'Ebola, rural à Ebola.
Urbaine.
Urbain, oui, et je pense que ce qui est intéressant, plus que de tomber dans un alarmisme bon marché, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça se traduit, comment cela se traduit au terme de suivi? Bien sûr qu'il n'y a plus de problème d'accès à tous ces contacts et à tous ces patients sur la ville, mais c'est aussi une difficulté, puisque là, il y a beaucoup plus de monde, une densité qui est différente, un accès au marché, donc quelque chose au niveau de la concentration et du risque de propagation qui est plus important. Ceci étant dit, je voudrais faire remarquer qu'il y a quand même quelque chose de très important, c'est que peu importe si ce soit une ville ou un village, ce qui est vraiment dans l'approche de contrôle de l'évolution de l'épidémie, c'est surtout avoir une liste de contacts très transparente et une possibilité de suivre de manière très claire et très protocolaire tous ces contacts pour qu'on puisse, dès les premiers symptômes, pouvoir agir et isoler et couper le cycle de contagion.
Ce qu'on appelle le traçage. Vous vous trouviez en Guinée, Luis Encinas, toujours pour MSF, lors de l'épidémie de 2014-2016. D'après vos observations, est-ce que les symptômes semblent identiques?
Les symptômes de la maladie n'ont pas... Enfin, pour moi, ce que j'ai vu, les patients, c'est quelque chose d'assez classique en termes de clinique. J'ai pas vu de grandes différences. Il y a peut-être une différence, c'est que les gens ont une connaissance en République démocratique du Congo assez vague, mais qui est beaucoup plus présente, puisque c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de ce pays. C'est là où on l'a découvert, et c'est quand même la neuvième épidémie de l'histoire du Congo. Donc dès qu'on parle d'Ebola, c'est quelque chose de connu, donc les gens aussi ont peut-être une certaine peur ou une appréhension. Il y a peut-être une volonté de venir et de consulter plus vite que dans des pays comme l'Afrique de l'Ouest en 2014, où il y avait une méconnaissance et quelque chose qui était plutôt du surréel. Oui.
On va vous retrouver, Luis Encinas, professeur Christophe Rapp, je vous donne enfin la parole. Cette dimension d'appréhension, de connaissance de la maladie, c'est quelque chose d'important aussi. Quand on ne se sent pas bien, là on s'adresse aussi aux auditeurs qui peuvent se trouver dans cette région, quand on ne se sent pas bien, pour aller vers un centre de soins.
Oui, alors tout à fait. La difficulté, c'est que la maladie mime le paludisme, qui est une endémie en République démocratique du Congo, et il faut effectivement sensibiliser les populations à consulter précocement en cas de symptômes évoquant la maladie.
Les rappeler, ces symptômes, c'est voilà. Très important.
Donc de la fièvre, c'est une fièvre aiguë, c'est des maux de tête, ça peut être un tableau digestif avec des nausées, des vomissements, et puis ensuite une diarrhée qui devient ensuite une diarrhée sanglante, et puis les manifestations hémorragiques sont à la deuxième phase de la maladie au bout de quelques jours d'évolution. Mais il est évident qu'il faut que la population consulte précocement, un peu ce que disait notre collègue sur le terrain, avec une meilleure connaissance, ils vont pouvoir consulter tôt et on sait qu'il y a un lien fort entre une prise en charge précoce et le pronostic. Parce qu'on n'a pas parlé encore de la létalité. Pour l'instant, la létalité est assez élevée et on voit que quand même la prise en charge des cas est certainement pas optimale car on a un taux de décès qui est élevé dans l'immédiat. Alors c'est souvent le cas.
On approche des 50% sur à peu près le mois écoulé, à peu près 50% de mortalité pour parler un peu plus facilement, pour donner les termes d'accès à nos auditeurs, une cinquantaine de cas suspects, environ 22 décès d'après le dernier décompte, donc on est proche de 40-45%.
Voilà, alors c'est les taux classiques en début d'épidémie, mais on sait qu'avec des soins de qualité, on a progressé lors de l'épidémie 2014 avec des soins symptomatiques un peu plus incisifs, tels que peuvent les conduire les collègues de MSF, on doit pouvoir réduire un peu cette létalité.
Temps d'incubation, professeur Rapp, combien de temps entre le contact avec quelqu'un de malade et les premiers symptômes ?
L'incubation de la maladie virus Ebola, c'est entre 2 et 21 jours maximum. Le plus souvent, c'est de 7 à 12 jours.
Comment les équipes sur le terrain, professeur Rapp, on parle de cas suspects, de cas confirmés, justement, qu'est-ce qui permet de s'assurer qu'on est face à Ebola et non, comme vous le disiez tout à l'heure, ce faux ennemi, le paludisme ?
Alors, il y a des définitions épidémiologiques qui sont données par l'OMS et les agents de santé, les équipes doivent repérer justement les cas suspects qui ensuite, en fonction du lien épidémiologique par rapport à un chasseur, par rapport à un contact d'un soignant, par rapport à un décès, vont être classés en cas possibles et bénéficier d'une prise de sang maintenant disponible sur le terrain avec les laboratoires mobiles pour confirmer la maladie Ebola.
Pour bien comprendre, vous avez dit chasseur, parce que parmi les modes de contamination, il y a la viande de brousse, donc des animaux que l'on chasse en forêt. Est-ce qu'il y a eu, ça avait été le cas pour la Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest, même jusqu'en Côte d'Ivoire, des avis pour ne plus consommer ces animaux, comme la goutille, comme les chauves-souris. Est-ce que là aussi, il y a eu des mises en garde, ou le singe, du même ordre ?
Alors, il y a des recommandations de l'OIE, il y a eu de nombreuses mises en garde, mais c'est très complexe parce que le réservoir naturel est probablement certaines espèces de chauves-souris frugivores dans certaines forêts d'Afrique. Et ensuite, il y a le rôle d'antilopes, des grands primates et d'autres rongeurs de forêt, mais c'est bien plus complexe que cela et c'est surtout pas tout à fait pertinent d'interdire à ces villageois de changer leurs pratiques traditionnelles sans avoir d'alternative à proposer. Donc, c'est un sujet qui est assez sensible et assez complexe.
Parce que quand on est en forêt, souvent, on n'a que ces animaux pour un apport protéinique pour l'alimentation, tout simplement.
Tout à fait.
Professeur Jean-Jacques Mouyembe, on vous retrouve en ligne de Kinshasa. Justement, en matière de prévention, quels mots d'ordre sont actuellement lancés par les autorités pour éviter justement à la fois la contamination, mais aussi pour informer simplement les populations ?
Oui, oui, vous avez parlé, n'est-ce pas, de rôle de la viande de brousse, hein.
Mm-hmm, absolument.
Nous disons ceci, que en fait, le premier contact avec l'animal vecteur ou réservoir de virus, c'est un simple accident. Donc, cette contamination de l'animal à l'homme survient accidentellement. Et puis après, c'est la contamination interhumaine. Donc pendant l'épidémie, on n'a plus de contact avec cet animal dangereux ou cet insecte dangereux qui a transmis la maladie. Donc cet événement est passé depuis un mois peut-être. Maintenant, c'est la transmission interhumaine qui se fait. D'abord, le personnel médical qui est exposé parce que le personnel travaille sans protection, souvent sans gants, sans désinfectant. Alors, il s'infecte et après, il amène l'infection, n'est-ce pas, dans la communauté. Alors, dans la communauté, il y aura une amplification qui va se faire autour des funérailles. Les funérailles où on entre en contact avec le mort, on prend les reliques, par exemple, on coupe les ongles, on coupe les cheveux, on prend les habits du mort, puis on envoie au village. C'est ainsi donc que l'infection va donc s'amplifier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, on dit, il faut la propriété des mains. Donc, lavage des mains, l'utilisation des désinfectants, et puis éviter donc de faire des enterrements non sécurisés. Donc, on prend en charge les inhumations, mais en associant, n'est-ce pas, les membres des familles. Et on introduit les désinfectants et les dents dans les hôpitaux, dans les centres de traitement, et également, mais on n'interdit pas de manger la viande de brousse, surtout si c'est la viande boucanée ou préparée, là il n'y a pas de danger, là il n'y a pas de danger. Et comme vous l'avez dit, la viande de brousse, c'est vraiment la source de protéines animales pour la plupart, n'est-ce pas, des Congolais, surtout en milieu rural.
Professeur Jean-Jacques Mouyembe, vous avez insisté sur ces enterrements sécurisés ou la préparation des défunts. On se souvient qu'en Guinée, en 2014-2016 notamment, pour la Guinée, cela avait été, on peut dire, une sorte de repoussoir pour les populations qui craignaient de ne pas honorer leurs morts selon les rites traditionnels, de leur manquer de respect en quelque sorte. Est-ce que là, tout a été fait, notamment au niveau de la communication, pour ce que ça se passe mieux et qu'il n'y ait donc pas de dissimulation de cas?
Exactement. Bon, nous avons une grande expérience dans la prise en charge donc des cas d'Ebola. Et chez nous, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est la mobilisation sociale, de l'engagement communautaire pour expliquer tout cela. Et maintenant aussi, nous associons donc les membres de famille aux cérémonies, n'est-ce pas, d'inhumation. Donc, si la famille est là et qu'on respecte les coutumes, nous respectons les coutumes tout en protégeant, n'est-ce pas, les membres de famille. En ce moment-là, vous n'avez pas de réaction, vous n'avez pas de violence de la part de la population. Jusqu'à présent, en tout cas, tout va bien. On n'a pas les réactions négatives, n'est-ce pas, dans la communauté. Au contraire, il y a une bonne collaboration parce que il y a un travail de fond qui est fait pour la mobilisation de communautés et l'engagement, n'est-ce pas, des communautés.
Professeur Mouyembe, on va vous retrouver. On va tout de suite donner la parole à un auditeur de Priorité Santé qui se trouve précisément à Mbandaka, en République démocratique du Congo. Cet auditeur, c'est Alain. Bonjour Alain.
Bonjour à vous, bonjour à vos invités.
Alors, première question Alain, quel est l'état d'esprit, on va dire ce matin à Mbandaka, autour de vous, que dit la population, que disent vos amis, votre famille au sujet de cette épidémie d'Ebola?
Bon, tout en saluant les interventions de toutes les personnes qui ont eu à prendre la parole avant moi, et à remercier la promptitude avec laquelle la communauté internationale s'est mobilisée, je voudrais de prime abord préciser une chose que nous vivons dans une psychose sans pareil. C'est vrai que le médecin a donné leur point de vue, c'est vrai qu'ils ont donné certaines informations qui sont vraies. Mais ce qui est vrai, la population de l'Équateur, et plus précisément là où je me trouve, en Mbandaka, n'est pas suffisamment sensibilisée par rapport à cette situation. Et les informations qui circulent vont de bouche à l'oreille. Comme vous le savez, nous avons un problème d'électricité, il n'y a pas de chaîne de télévision, il y a juste des chaînes de radio qui passent, votre chaîne qui passe, il y a la radio Capi, il y a les autres chaînes locales qui passent, mais malheureusement, ça ne communique pas assez sur la situation. Ce qui fait que nous prenons juste les informations ici et là, et ça crée une sorte de psychose que nous n'arrivons pas à maîtriser.
Avec ce ressenti, justement, excusez-moi, est-ce que ça veut dire aussi que vous entendez un petit peu tout et n'importe quoi, des rumeurs, et que des fois vous êtes un petit peu obligé de dire ben, « Non, ça c'est pas forcément vrai », où est-ce que vous allez chercher la bonne information?
Effectivement, nous voyons qu'il y a des gens qui sont déployés. J'ai vu des médecins qui sont venus j'ai vu des spécialistes qui sont venus. Au niveau de la province, il y a certainement une certaine sensibilisation parce que nous voyons des affiches qui sont placées ici et là. Mais la difficulté que nous avons, c'est comme si les gens qui font la sensibilisation n'ont pas intégré la dimension anthropologique des Équatoriens, en fait.
Ça veut dire quoi, concrètement? Qu'est-ce qui vous manque?
Ils doivent arriver à contextualiser le message par rapport à nos réalités sociologiques. Ils doivent arriver à comprendre que tout Équatorien n'a pas la possibilité de lire un document. Ils doivent comprendre qu'ils doivent utiliser les langues qui se comprennent facilement. Ils doivent comprendre qu'ils doivent faire une sensibilisation de proximité.
Il faut faire des réunions communautaires, il faut aller au cœur des communautés avec des équipes de santé et donner la parole aux chefs, par exemple, communautaires pour que tout ça soit relayé dans de bonnes conditions. C'est ça ce que vous dites ?
Effectivement, mais avec des mots simples. Parce qu'apparemment, il y a le caractère trop savant de leur sensibilisation. Nous avons connu de problèmes ici, tout simplement parce que les gens considèrent Ebola comme un mauvais sort qui a été jeté. Il y a des gens qui ne veulent pas aller vers les centres de santé, bien qu'ils se sentent malades. C'est ça, en fait, le problème. Alors, s'ils doivent mettre un accent particulier sur la sensibilisation, eh bien, ils doivent arriver à tropicaliser leur message. Parce que l'Équateur, c'est une province, de mon point de vue, qui est un peu atypique par rapport à cette réalité. Nous avons tous connu l'Ebola, c'est vrai. Mais nous ne savons pas que l'Ebola peut aussi tuer, et comme ça s'est fait aujourd'hui. Peut-être qu'on avait une information, comme vous l'avez dit, mais nous n'avons pas encore une certaine maîtrise de cette réalité. Ah. Si l'organisation ou l'équipe de riposte voudrait nous aider, ils doivent contacter les chaînes des radios locales.
Les chaînes des radios locales. J'avais une question à vous poser très concrète, Alain. Je ne sais pas si vous suivez l'émission depuis son début. Est-ce que ce que nous disons ici, c'est clair pour vous? Ou justement, ce genre de message, c'est encore trop compliqué pour atteindre les populations et pour avoir un véritable rôle de prévention et d'information?
Bon, vous allez vous rendre compte que je comprends facilement ce que vous dites et j'ai commencé l'émission.
Non, j'ai bien compris que vous compreniez, mais je parle autour de vous.
Moi je comprends, mais il y a plus de 60% de la population qui ne comprend pas. Je vous donne un cas. J'ai suivi le docteur Mouyembe, que je salue en passant, et vos experts qui sont là, qui sont en ligne. Quand ils parlent de la vaccination, ils font allusion à quoi? Et ils ont utilisé quelle méthode pour sélectionner des gens? C'est justement par rapport à cette communication de bouche à l'oreille. Mais en réalité, prenez d'abord le système de transport au niveau de la province. Nous circulons grâce aux motos. Et sur une moto, vous trouvez 3-4 passagers.
Serrés les uns contre les autres.
Le conducteur, supposons que le conducteur soit en contact avec quelqu'un qui est malade. Naturellement, il transmet la maladie à la personne qui vient juste après. Parce qu'il y a la transpiration. Est-ce qu'on a fortement sensibilisé? Aujourd'hui, nous avons cette pratique de nous laver les mains. Est-ce qu'on peut attraper cette maladie que par la main? Non. Donc, quelque part, j'ai dit, ils ont fait un travail qui doit être apprécié, mais n'ont pas mis l'accent sur la communication, sur la sensibilisation. C'est ce qui justifie la psychose.
Professeur Mouyembe, merci beaucoup, ce témoignage très instructif de Mbandaka de la part d'Alain. Merci à vous, excellente journée. Professeur Mouyembe, cet auditeur qui dit que parfois le message, malgré tous les efforts qui sont faits et qu'il salue par là même, ce message des fois n'est pas totalement en adéquation avec ce que vit la population sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bon, oui, nous sommes d'accord avec ça. Bon, mais c'est un début, hein. Nous sommes tout à fait au début. Bon, ça fait à peu près 2 semaines qu'on a commencé la lutte. Donc, on ne peut pas tout réaliser. Nos gens qui sont sur place, nos équipes, vont entrer en contact, comme je vous ai dit, avec les leaders d'opinion et avec les chefs de communauté pour, en fait, discuter, avoir le dialogue, pour voir, on peut changer le message. On peut changer le message. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons donc adapter, n'est-ce pas, nos messages par rapport à la culture, par rapport aux mœurs, n'est-ce pas.
Ça veut dire lancer des causeries communautaires, c'est très important.
Oui, oui.
On va donner la parole à Luis Encinas, qui était donc à Bicoro, donc les premières zones de l'épidémie. Est-ce que vous avez jugé, en allant à la rencontre des malades, en allant dans les centres de soins, est-ce que vous avez eu l'impression que les moyens matériels nécessaires avaient bien été mis à disposition? On peut parler tout simplement de l'eau, du savon, des produits désinfectants pour les mesures élémentaires de prévention, mais aussi les gants, les combinaisons pour les personnes exposées dans le premier cercle, en particulier personnel de santé.
Alors oui, j'ai envie de répondre tout d'abord à votre question, mais aussi revenir un peu sur le
témoignage.
Notre témoignage de Mandaka, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. D'abord, pour répondre à votre question, c'est clair que tout ce qui est en relation avec la protection du personnel médical qui prend en charge les patients Ebola positifs a été mis en place au niveau du centre où se trouvent les patients. Après, il y a bien sûr tout le travail qu'il faut faire de sensibilisation, de préparation, de formation pour tous les centres de santé qui peuvent se retrouver demain face à un patient hypothétiquement malaria ou hypothétiquement Ebola ou les deux. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose comme on est dans une réalité où l'accès à l'eau, l'accès à des simples mesures d'hygiène de base n'est pas toujours la réalité. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de discerner par rapport à ça. Pour revenir, si je peux me permettre, sur l'intervention de notre auditeur à Bandaka, je pense que c'est très intéressant. Non seulement une question de est-ce qu'on utilise les bons canaux, est-ce qu'on a appris des choses de 2014 et un des points fondamentaux des leçons apprises de l'épidémie 2014 en Afrique de l'Ouest, c'était faire intégrer de manière claire et systématique des représentants des communautés, des représentants de jeunes, des représentants de femmes, des représentants de motons, de motards, des personnes qui vont avoir accès aux plateformes décisionnelles, aux commissions, et qui disent bon, ça va pas passer, ça c'est pas quelque chose qu'on écoute, qu'on comprend, comment on interprète, qui doivent faire partie intégrante des décisions stratégiques. Sinon, ça c'est juste une question qui vient poser, et on risque vraiment de se voir confronté à des situations de rejet ou d'incompréhension, ou tout simplement gérées par la peur, puisqu'il y a quand même quelque chose, pour la psychose c'est un mot, c'est une dimension assez forte, mais en tout cas la peur et l'incompréhension par manque d'information est clairement présente. Alors tout se passe bien, je ne suis pas tout à fait sûr de là-dessus, il y a quand même aussi des petits incidents qui commencent déjà à se déclencher, et c'est pour ça aussi qu'on a un énorme travail de sensibilisation, et donc de travailler vraiment en canaux d'effets dominos, donc vraiment travailler là-dessus. Et un des points importants aussi, c'est finalement expliquer aux gens en langue locale, de manière compréhensible, parfois aussi avec du langage, avec du théâtre, avec des images, des boîtes à images, que ce soit vraiment culturellement acceptable et compréhensible ce que c'est que l'Ebola, comment se prévenir et comment aussi faire partie de l'étude. Donc ça, on parlera peut-être un peu plus tard par rapport au vaccin candidat.
Alors, Luis Encinas, une dernière question. Sans dramatiser, vous avez fait état d'incidents. De quoi s'agit-il ?
Bien, ce sont parfois des incidents de rejet, de peur, où on parlait tout à l'heure de fétichisme, vous savez, l'être humain a cette tendance de toujours donner une explication, et quand on n'a pas d'explication scientifique, on a une explication surnaturelle. Et donc aussi, on fait l'amalgame de plein de choses derrière, et parfois dans certains villages qui n'ont pas été sensibilisés proprement et correctement, eh bien, il y a des rejets, il y a simplement aussi des menaces verbales ou physiques qui peuvent croître de plus en plus si on n'anticipe pas et si on ne prépare pas bien le terrain. Pour l'instant, c'est quelque chose de très ponctuel, mais on l'a connu en 2014 sur des autres dimensions et des autres proportions. Ça pourrait devenir aussi quelque chose de beaucoup plus présent et mettre en plus en difficulté nos équipes et l'approche aux communautés.
Merci beaucoup, Luis Encinas, d'avoir été en ligne avec nous. Bonne mission, donc, qui doit reprendre dès jeudi à Bandaka pour MSF. Professeur Christophe Rapp, on a parlé tout à l'heure avec cet auditeur de la contagion. La sueur, vous nous le confirmez, fluide corporel, c'est un agent contaminant ?
Oui, tout à fait. Le virus Ebola circule dans tous les fluides biologiques du corps et notamment également dans la sueur avec parfois des quantités de virus très importantes. Et il faut rappeler aussi le rôle de la transmission sexuelle qui avait été confirmée pendant l'épidémie de 2014, même si elle était suggérée bien antérieurement.
Alors, professeur Christophe Rapp, on parle des modes de transmission. Il faut aussi parler des personnes qui sont plus susceptibles que d'autres de transmettre cette maladie, simplement parce qu'elles sont en contact avec beaucoup de monde, les personnels de santé, et aussi, dans une certaine mesure, on peut dire, les ecclésiastiques. Justement, le numéro 2 de l'Église de RDC a décidé d'arrêter un certain nombre de rites qui entraînent un contact. Ce genre de mesures de prévention, c'est plutôt une bonne chose, parce que là, directement, ça intègre la communauté.
Oui, bien entendu. En fait, tout ce qu'on appelle les mesures de distanciation sociale en phase d'épidémie sur une épidémie à transmission contact sont bien sûr des mesures pertinentes. Ne plus se serrer les mains, limiter les manifestations avec forte densité de population, parce qu'il est évident que la densité de population est un facteur de propagation de l'épidémie.
Professeur Mouyembe, même question à vous. C'est cette déclaration de Monseigneur Ambongo qui s'est rendu dans les zones infectées à titre de prévention. Il décide de suspendre l'administration des sacrements, concrètement, baptême, confirmation, onction des malades. Ce type d'annonce, pour vous, c'est une bonne chose ou c'est plutôt de nature à inquiéter les populations?
Bon, mais je pense que Monseigneur a tout à fait raison. C'est bien, mais c'est une suspension, n'est-ce pas, provisoire.
Temporaire.
Et ça protège. Je pense que c'est une bonne mesure. Je le félicite pour son initiative.
Depuis deux semaines, la réponse de l'OMS, qui avait été pas mal critiquée, il faut le dire, lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest 2014-2016, là, la réponse a plutôt été saluée par la communauté internationale, jugée en phase avec la situation. Professeur Mouyembe, 9e épidémie dans votre pays, la RDC, est-ce que vous diriez qu'on apprend à chaque fois?
Bon, oui, je pense qu'on apprend à chaque fois parce que chaque épidémie est une épidémie particulière. Donc, les épidémies, en fait, ne se ressemblent pas. Ils ont un socle socio-culturel vraiment différent. C'est ce que nous voyons maintenant lors de cette épidémie de Bikoro, qui en fait est une épidémie dont pour le moment nous ne connaissons pas la tête, de comme un serpent avec plusieurs queues. Donc nous savons là, il y a une queue là à Bikoro, une queue en Bandaka et peut-être une queue ailleurs, mais nous cherchons encore la tête. Où se trouve la tête, n'est-ce pas, de cette épidémie? Et comme ça, si on s'attaque à la tête, je pense que l'épidémie va vite s'arrêter. Ce sont les efforts que nous faisons maintenant pour la surveillance épidémiologique, faire la chaîne de transmission remonter pour arriver, n'est-ce pas, au premier cas. D'où vient le premier cas? Est-ce qu'il a été en contact avec un animal? Et quel est cet animal? Et ainsi de suite.
Professeur Mouyembe, une dernière question. Est-ce que d'autres maladies ont dans cette région d'Afrique centrale une telle dimension mystique?
Je crois que Ebola est quand même une maladie particulière.
Comment vous l'expliquez justement? Pourquoi, quand on dit Ebola, il y a cette réaction? Tout en début d'émission, vous disiez... entre guillemets, pour résumer, ça va plutôt bien, tout va bien. On entend cet auditeur qui utilise le mot psychose. Entre les deux, pourquoi Ebola fait aussi peur?
Bon, Ebola fait peur parce que, d'abord, c'est une maladie qui s'accompagne d'une très forte mortalité. Et son début est vraiment mystérieux. Comme a dit notre collègue, les débuts, on confond avec les palus, on pense à la fièvre typhoïde, qui sont deux endémies fréquentes ici en RDC. Mais petit à petit, on voit que même si on traite contre les palus, on donne des antibiotiques, la maladie ne disparaît pas. Et souvent aussi, la maladie commence par des familles. Donc ce sont les membres des familles qui meurent. Et la population dit, non, dans cette famille-là, ils ont leurs problèmes. Donc on pense aux fétiches, etc. Ils ont leurs problèmes. Alors ça devient un problème de famille.
Un problème de maison, c'est après, la maison qui est touchée en quelque sorte.
Exact. Et puis après, on voit que même les médecins, même les infirmiers sont atteints. Vous voyez? Alors on dit, mais même ceux-là sont atteints, alors c'est grave. Voilà, c'est ça qui fait un peu de cette maladie, une maladie mystérieuse, hein, au début, et puis il y a trop de légendes qui s'accrochent à cette maladie, et enfin alors, il y a l'évidence scientifique qui va montrer que c'est Ebola, et alors tout le monde se réveille, et on voit donc, on voit des partenaires étrangers qui arrivent en masse. On n'a jamais vu ça dans une ville comme Bagata ou bien dans des coins reculés comme Bikoro. C'est ça qui fait la particularité, n'est-ce pas, de cette maladie. Tandis que la plupart d'autres maladies que nous avons, ce sont des maladies que les Congolais eux-mêmes donc maîtrisent et puis ça s'arrête. Mais celle-là fait peur. Fait peur d'abord aux nationaux et fait peur aussi à l'étranger avec les risques, n'est-ce pas, d'expansion de ce virus.
Pour l'instant, ce risque qui n'a pas été mis en avant par l'OMS dans son dernier message d'alerte. En tout cas, merci beaucoup, professeur Mouyembe, d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Mes excuses encore d'avoir écorché votre prénom en début d'émission. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut National de Recherche Biomédicale. Toujours avec nous, professeur Christophe Rapp, face à ce type d'épidémie. Hein, on l'a dit, c'est l'OMS qui est en première ligne. L'OMS pas mal décrié en 2014-2016. En Afrique de l'Ouest. Là, le ton a changé. Hein.
Alors là, la riposte est rapide et forte, et la coordination est de meilleure qualité, puisqu'on est dans un pays qui a déjà une coordination en intercrise. Donc là, on voit que les choses se déroulent mieux. Hein. On a en fait une partition que l'on connaît, tout est écrit, le plan de riposte est écrit, et ce que nous illustrent les témoignages qu'on vient de voir, c'est la différence entre la théorie et la pratique, et les difficultés logistiques, et le fait que mobiliser la population, ça prend plusieurs semaines parce qu'en ce moment on est en train de former des relais, etc. et que ça se fait pas en 48 heures. C'est sans doute un travail qui devra être amélioré en intercrise dans un pays épidémique et pour ne pas dire endémique pour Ebola. Il y a des réflexions à mener, de même qu'il y a une réflexion, le professeur Mouyembe est biologiste, hein, il y a une réflexion sur la biologie. Hein. On a maintenant des laboratoires mobiles qui font le diagnostic pendant les épidémies. Il y a certainement intérêt à implémenter d'autres outils de laboratoire en routine pour mieux discriminer les fièvres dans ces régions d'Afrique.
Professeur Rapp, c'est votre équipe qui avait pris en charge les cas importés lors de l'épidémie de 2014 hein, au centre des maladies infectieuses de l'hôpital Bégin à Saint-Mandé, auprès duquel vous êtes désormais consultant. Cette fois, l'OMS a décrété que cette épidémie ne constituait pas, on vient de le dire, une urgence de santé mondiale, message du 18 mai. Qu'est-ce que ça change en termes de mesures concrètes aux frontières, par exemple, ce type d'annonce ?
Alors la notion d'urgence de portée internationale, ça va, dans le cadre du règlement sanitaire international, entraîner la mobilisation de tous les États, entraîner effectivement des attitudes parfois protectrices, des contrôles aux frontières. Et surtout, en réalité, c'est une mesure économique de l'OMS qui, à ce moment-là, mobilise des fonds très différents et implique tous les pays. C'est pour ça que cette situation est révisable en fonction de la dynamique de l'épidémie.
Avec des appels qui peuvent changer au fur et à mesure de la contagion. Des appels aux dons, des appels au financement.
Oui, qui ont déjà commencé, hein, parce que là, il y a un tel défi logistique, et notamment pour la vaccination, il faut beaucoup de moyens financiers pour arriver à conduire cette vaccination.
Professeur Christophe Rapp, j'ai posé cette question tout à l'heure au professeur Mouyembe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce ressenti particulier, on va pas dire à l'égard, plutôt à l'encontre d'Ebola, perception de ce virus très singulier, peut-être plus redouté que d'autres? Il y a eu une épidémie de virus de Lassa avec pas mal de morts il y a 2 mois au Nigeria, au Bénin. On n'en a pas fait autant de cas. Pourquoi on parle autant d'Ebola?
Alors la fièvre de Lassa, c'est une maladie endémique. Il y a chaque année 300 000 cas en Sierra Leone. La létalité est beaucoup plus faible, elle est inférieure à 10% et seuls quelques cas hospitalisés décèdent. Ebola, c'est cette forte létalité, c'est la brutalité d'épidémie et puis c'est cette notion dans l'inconscient collectif de l'absence de réservoir. On n'a toujours pas expliqué ce qui se passe dans cette forêt. On a la piste des chauves-souris, les grands primates, mais on connaît mal la chaîne. Et d'ailleurs, le professeur Mouyembe nous disait tout à l'heure, on n'a pas trouvé le cas index. Donc il y a un problème aussi de surveillance épidémiologique. L'alerte est toujours trop tardive et on a beaucoup de mal à refaire la chaîne. Souvenez-vous, en 2014, le cas index, c'est un enfant de 2 ans en décembre 2013 dans un village d'Afrique. C'est ce qui nous a été décrit. Est-ce que c'est la réalité? Comment cet enfant s'est-il contaminé? Il y a une part d'inconnu.
Alors, au-delà de ces flambées, est-ce qu'on peut dire que ce virus Ebola, en termes scientifiques, a donné en fait peur aux institutions de santé mondiale? Il a dit pour des médecins qui pensaient peut-être être à l'abri d'un grand risque infectieux, que c'était fini, eh bien, le risque est toujours là. Est-ce que ça a remis aussi en cause une sorte de dogme de sécurité, professeur Rapp?
Alors, c'est la notion de maladie émergente qui est maintenant une notion, dans le cadre de la mondialisation, vraiment internationale, avec une riposte internationale et des aspects très positifs comme la recherche. On a mis en place un vaccin en 18 mois. Et dans cette épidémie, là, il faut insister sur l'intérêt. On a parlé d'expérimental. Alors, c'est expérimental, très encadré, c'est du compassionnel, mais c'est vrai que les chercheurs du monde entier sont très intéressés à avoir ces résultats de cette vaccination en anneaux. Et je préciserai notamment que dans cette vaccination, il y a les soignants, on a oublié d'en parler ce matin, les soignants sont vaccinés et ça c'est extrêmement important parce qu'ils sont en première ligne, il y a déjà eu plusieurs décès de soignants, et donc il faut absolument les protéger pour qu'ils puissent de façon altruiste faire leur travail au quotidien.
Prendre en charge les autres, beaucoup de soignants avaient péri justement pendant la flambée épidémique en Afrique de l'Ouest. Justement, on a ce recul par rapport à ce qui s'était passé en Guinée, en Sierra Leone, au Liberia. Combien de temps, quelle période, sans nouveau cas faut-il pour qu'on puisse déclarer la fin de l'épidémie?
Alors, de façon tout à fait précise, la définition de la fin de l'épidémie, c'est 2 fois la durée d'incubation de la maladie, c'est donc 42 jours après le dernier cas.
Et si on regarde aujourd'hui, justement, l'épidémiologie, on peut dire qu'on a un moment où va se décider la suite des choses pour Ebola en RDC, cette 9e poussée de la maladie. On peut dire quoi aujourd'hui? Il faut attendre?
Ah, il faut être prudent sur les chiffres parce que le tracing des contacts est compliqué. Est-ce qu'on a bien repéré tous les cas, comme le disait notre collègue? C'est un peu la complexité. Les chiffres sont pas très importants pour l'instant. On n'a pas l'impression qu'il y ait une dynamique très importante. Mais le nombre de contacts est déjà supérieur à 600. Donc, ils vont avoir des prises de sang. On est dans une phase un peu intermédiaire où il faut être prudent.
On a dit tout à l'heure, c'est ma toute dernière question, il nous reste assez peu de temps, que pour l'instant il n'y avait pas d'alerte mondiale. Est-ce que pour autant les médecins, les infectiologues sont en alerte en attendant d'éventuels messages de l'OMS?
Alors il y a une mobilisation internationale, les infectiologues qui vont sur le terrain aux côtés des épidémiologistes et des anthropologues. Et puis il y a bien entendu une réflexion des différents gouvernements sur le rapatriement éventuel d'humanitaires français ou européens vers des centres spécialisés d'Europe. Donc oui, on est tous en grande vigilance pour faire face aux différentes situations.
Merci beaucoup professeur Christophe Rapp d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé pour cette émission consacrée à cette épidémie de virus Ebola en RDC. Je rappelle que vous êtes consultant dans le centre des maladies infectieuses de l'hôpital Bégin à Saint-Mandé en région parisienne, président de la Société française de médecine des voyages. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous parlerons de la sclérose en plaques. Si vous voulez témoigner, poser vos questions, notre numéro, c'est le 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.